Aujourd'hui, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous entre midi et science qui s'inscrit dans le cadre de la semaine du cerveau. Nous avons l'habitude d'avoir certains domaines où on nous demande un peu de s'engager. On parle de transition climatique souvent, on a parlé d'égalité homme-femme il n'y a pas très longtemps. On s'est intéressé également parfois aux maladies chroniques. Et on se rend compte que il est nécessaire d'engager, de modifier nos comportements. Et pourtant, nous ne le faisons pas. Et donc, à l'occasion justement de cette semaine du cerveau, on a voulu inviter une neuroscientifique. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir Marie Prevot. Vous êtes donc docteur en neurosciences. Vous êtes également présidente et fondatrice de la fabrique à neurones. Et nous sommes ravis de vous retrouver puisque nous avons déjà accueilli sur d'autres sujets. Et donc, vous êtes là dans le cadre d'un café débat, donc un peu hybride. Donc, je rappelle un petit peu le contexte. Vous avez 30 minutes pour nous exposer un petit peu ce sujet, la problématique. Et on va consacrer les 30 minutes suivantes justement à un échange, à un débat avec la salle. Donc justement, pourquoi on n'arrive pas à s'engager? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? C'est vraiment la question que nous avons envie de vous poser. Et quels sont tous nos freins? Est-ce qu'ils existent vraiment? Et donc voilà, je vous laisse la parole. En tout cas, merci d'avoir accepté ce rendez-vous, cette invitation.
Merci beaucoup Jean-Yves pour l'invitation. Ravi d'être là et de ce succès. Je veux dire, c'est chouette. J'espère que je serai à la hauteur de ce que vous venez chercher. Vous me direz à la fin. Juste pour dire, nous à la Fabrique à Neurones, on a un centre de formation. Donc on essaye de donner de l'information sur comment ça se passe dans le cerveau pour les professionnels qui veulent utiliser ces connaissances-là dans leur quotidien. Et pour entrer dans le vif du sujet, je me suis dit que j'allais commencer avec quelques notions sur le fait qu'effectivement, on est vraiment capable de changer. Donc on a tous ça en nous, sauf certaines pathologies. Et là, c'est l'idée de pouvoir vous convaincre tout de suite avec quelques morceaux de science pour aller dans la thématique. Donc par exemple, quand simplement on apprend au quotidien depuis qu'on est petit, on change. Ça fait partie du processus. Et ne serait-ce que grandir petit jusqu'à l'âge adulte, on change. Et dans le cerveau en particulier... Par exemple, chez des pianistes, dès l'enfance, mais il y a énormément d'études de ce genre-là, on peut voir qu'à l'âge adulte, un pianiste professionnel, si on le rentre dans l'IRM et qu'on regarde un petit peu la taille de certaines aires de son cerveau qui lui servent à être pianiste, alors ces aires vont être plus larges, donc l'aire motrice de la main pour faire du piano, et de l'audition, qui lui sert quand même à écouter et à produire sa musique comme il faut, elles sont plus larges que chez des gens qui sont pas musiciens ou musiciens amateurs. Parce que lui, il fait ça tous les jours au quotidien. Et donc, depuis tout petit, il a développé ses compétences et son cerveau, je le dis dans ce sens-là exprès, c'est-à-dire son cerveau s'est adapté à la demande qu'il lui faisait. Et moi, je veux être pianiste, il s'entraîne. Et à force que sa main fasse ça, ça a dit à son cerveau, là, j'ai besoin de compétences, j'ai besoin d'un support neuronal pour être expert de ça. Donc c'est ce qui se passe, on peut le voir à l'IRM, en photo, quoi, que ça a grossi, ces zones-là ont grossi pour s'adapter à ça. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas complètement surprenant, on s'y attend, puisqu'on voit bien que c'est ce qu'on fait tous, on se forme depuis tout petit pour essayer d'acquérir des compétences en grandissant. Chez les chauffeurs de taxi, donc eux, ils sont adultes, ils ont fini cette période magique où on apprend énormément très facilement. Donc ici, il n'y a que des adultes. C'est pas vrai, il y a des gens plus jeunes que j'ai vus. Mais c'est plus dur. On sait que c'est plus dur quand même. Passé 30 ans, c'est pas aussi facile d'apprendre qu'avant. C'est normal, c'est parce que notre cerveau est plus aussi en train de se former. Il a fini sa maturité. Et chez les chauffeurs de taxi, quand ils passent leur concours, en tout cas dans les années 2000, ils passaient un concours pour devenir chauffeur de taxi. Il fallait qu'ils mémorisent entre 20 et 30 000 rues par cœur. Là, c'est des chauffeur londonien. Donc c'est énorme. Donc ils passent un an, deux ans à s'entraîner, puis ils passent l'examen. Et puis là, si tout va bien, du coup, ils savent conduire n'importe qui, n'importe où dans Londres, de mémoire, pas de GPS. Pour faire ça, on peut les mettre dans l'IRM et observer que leur hippocampe, donc on en a un dans chaque hémisphère, qui est une zone, si vous faites un trou au-dessus de l'oreille que vous allez à l'intérieur, vous tombez sur les hippocampes de chaque côté, qui ressemblent effectivement à l'hippocampe marin un petit peu. On voit que ces hippocampes ont grossi. Donc ils ont en fait développé de la matière pour accueillir, pour stocker en fait toutes ces informations sur ces rues londoniennes. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la matière qu'on avait était peut-être pas suffisante. Donc ils ont carrément créé des neurones, ce qu'on est tous capables de faire jusqu'à notre mort hors pathologie, ce qui est chouette. Et donc ils se sont adaptés à ça. le côté plastique du cerveau, cette capacité qu'il a de changer, d'évoluer en fonction des demandes qu'on lui fait, c'est réversible. C'est-à-dire que quand ils vont s'arrêter d'être chauffeurs de taxi et qu'ils vont s'arrêter d'utiliser ces informations au quotidien tout le temps, bah, l'hippocampe va réduire un peu de taille. Notre cerveau, il est plutôt à l'économie et va dire, bah, en fait, tout ça ne me sert plus à rien. Je ne vais pas garder, dépenser cette énergie à conserver cette matière vivante bien présente et active alors que ça ne me sert plus à rien. Donc ça va rediminuer pour revenir sur quelque chose de plus comme tout le monde presque. Et ça, c'était une super preuve dans les années 2000 quand c'est sorti ce papier. C'était vraiment une énorme preuve de cette capacité qu'on a à tout âge. Là, c'est des adultes de changer, de s'adapter et d'arriver à quelque chose de différent par rapport à ce qu'on est actuellement. Puis là, il y a une autre étude avec des mathématiciens, je le mets parce que c'est pour vous dire qu'il y a vraiment toutes les thématiques. Pareil, ils ont des aires du calcul, des représentations visuelles et spatiales qui sont plus larges, si on rentre dans l'IRM pour voir la taille de ces zones-là, plus larges que d'autres collègues académiques qui ne font pas des mathématiques, qui eux n'ont pas besoin de ces compétences-là, donc ils n'ont pas développé en fait leur cerveau de cette façon-là. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que, donc, à tout âge, sans pathologie, on est capable de s'adapter, on est capable de changer, et on peut le faire. On a ça en nous, c'est pas une question de capacité. Donc, on peut avoir des raisons pour lesquelles on n'y arrive pas, on va en parler, mais on est capable de le faire. Donc, si aujourd'hui, là, je vous convainc d'une chose, c'est qu'on est tous capables de changer, de s'adapter. Encore faut-il, du coup, y mettre les bons ingrédients pour s'aider à y arriver, parce que c'est pas facile, parfois, comme on le sait. Ça, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que vous, ici, si je pouvais faire l'IRM sur une personne, ça se fait sur plusieurs personnes, on peut pas... Enfin, c'est plus dur de regarder sur une personne quelles sont les spécificités de son cerveau. Mais pour chacun ici, en fait, si on vous met à l'IRM, vous avez des zones du cerveau, probablement, qui sont plus développées selon vos compétences et vos expertises. C'est comme ça qu'on a appris et qu'on s'est développé. Donc, pour chacun d'entre nous, c'est ce qui s'est passé dans nos compétences diverses. Et même ceux qui se pensent peut-être n'avoir aucune compétence, vous avez ça forcément parce qu'au cours de votre vie, vous avez acquis des talents. Donc ça, c'est le premier point que je voulais faire. Le deuxième, c'était que pour arriver à ces changements, globalement, il y a une notion incontournable, c'est l'effort. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on apprend, et c'est parfois très facile, et on a l'impression qu'on ne fait aucun effort, mais pour mon cerveau, il y a toujours un effort. Il y a toujours un peu une zone où il faut déployer de l'énergie. Pour lui, pour créer des neurones, il déploie forcément de l'énergie. Il faut aller avec la nourriture qu'il prend, la casser en petites briques, aider à produire derrière des molécules, lire l'ADN, créer un nouveau neurone. D'accord, c'est de l'énergie qui est déployée pour faire ça. Et là, c'est une illustration de ça. Donc, c'est chez des enfants. C'est des travaux de Stanislas Dehaene et de sa femme, je vais dire de Ghislaine Dehaene et de son mari Stanislas Dehaene, parce que lui est très très connu, donc on dit souvent que c'est sa femme, mais elle est tout autant chercheuse que lui sur ces domaines. Et donc on a ici des enfants au CP qu'on a mis dans l'IRM pour regarder quelles zones du cerveau sont actives quand ils apprennent à lire. Et au CP, comme vous le savez, quand on commence, on lit de façon très difficile, on est en train d'apprendre, donc c'est vraiment le... chat, c'est vraiment de cet ordre-là, et on n'a pas d'espace pour faire autre chose, on est juste concentré à déchiffrer le texte, on ne comprend même pas ce qu'on lit. On essaye juste de commencer à déchiffrer chaque syllabe, chaque lettre, parce qu'on est dans cet apprentissage. Et donc on voit quoi ? Que globalement, il y a trois régions dans le cerveau qui sont recrutées. Ça, c'est un cerveau qui est comme ça, si on m'enlevait mon crâne, il y a le front ici, l'arrière là, d'accord ? C'est une représentation de ça. Puis là, ça descend dans la colonne vertébrale, c'est la moelle épinière. Et donc on voit qu'il y a trois régions qui sont actives pour permettre à l'enfant à ce moment-là de lire, de faire ça. Donc c'est beaucoup d'énergie et de ressources qui sont déployées pour qu'il essaye de lire. Et puis au bout d'un an ou deux, CE1, CE2, on remet tous ces enfants dans l'IRM pour voir comment ça se passe dans leur cerveau quand ils lisent. Donc en termes de production, d'action, c'est exactement la même chose qu'ils font, ils sont en train de lire un texte, mais là vous le savez, quand on est arrivé au CE1, CE2, hors pathologie, on se retrouve avec quelque chose de plutôt fluide. On arrive à lire le chat, d'accord, c'est pas comme un adulte, mais c'est quand même très fluide. On est passé à une autre version de la lecture, on a appris à lire. C'est devenu quelque chose qui est une compétence pour nous maintenant. Et quand on va dans l'IRM, alors là, j'ai changé l'orientation des cerveaux pour vous embêter. Donc là, c'est l'avant et là, c'est l'arrière. On se retrouve avec plus qu'une seule région qui est activée pour me permettre de lire pour ces enfants. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? C'est devenu un automatisme. On a dégagé de l'espace mental, si je le dis d'une certaine façon, mais en gros, on n'a plus besoin de recruter autant de régions cérébrales pour faire la même action, parce qu'on a appris, et c'est devenu quelque chose qui coûte beaucoup moins d'efforts, voire aucun effort au bout d'un moment. Et on le voit là, en termes vraiment juste computationnels, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que l'énergie dépensée, bah, elle est trois fois moins, au moins trois fois moins, pour le même exercice. Ça, c'est le changement qui s'est opéré dans le cerveau, c'est l'apprentissage, c'est l'adaptation. Et cet effort-là, j'ai pris cet exemple exprès, parce que quand on apprend à lire, on le voit, l'effort que ça coûte, vraiment cette difficulté, ce côté un peu pénible et long, pour réussir au début à lire, qui là n'est plus du tout présent, bah, c'est l'effort qu'il faut déployer pour réussir à mettre en place ce changement. Parce que dans mon cerveau, les connexions qui vont me servir à faire ça de façon fluide ne sont pas encore vraiment en place. Les neurones éventuellement qui me servent à ça ne sont pas tous présents. Et donc pour que mon cerveau se dise « je les mets en place », il faut vraiment le forcer, il faut lui dire « j'en ai vraiment besoin, je sais que je ne sais pas le faire maintenant, donc je galère, et c'est lent, et c'est un peu compliqué. » Mais à force de le faire tous les jours encore et encore, il comprend que c'est utile et nécessaire, et donc il va déployer l'énergie nécessaire pour mettre en place ce qu'il nous faut. Et ça, ça passe par cet effort. Il n'y a pas tant d'autres possibilités pour que le cerveau mette en place tout ça. C'est un effort, c'est l'énergie qu'on dépense. Est-ce que... Oui. C'est valable à tous les âges, c'est d'autant plus valable qu'on est adulte par rapport à enfant. Parce que adulte, c'est encore plus dur, on a passé un peu la période magique où on est câblé pour vraiment intégrer autant d'informations que possible pour survivre. À 20-25 ans, mon cerveau a fini de maturer et comme je suis biologiste, j'aime beaucoup les théories de l'évolution, a priori en fait, il n'a plus besoin d'aller plus loin que ça, là c'est bon, la survie de l'espèce est assurée. Normalement, il s'est reproduit, il sait se nourrir, tout va bien. Donc maintenant, c'est un peu du luxe d'apprendre et de changer, quoi. On a, l'espèce est sauvée. Donc ce sera beaucoup plus dur après 20-25 ans qu'avant, parce qu'on est vraiment fait pour, mais ce principe, il est vrai à tout âge. Mais d'autant plus quand on est adulte, et je pense que vous le savez, si là vous vous mettez un cours d'italien, c'est quand même vachement plus dur que quand on était petit. En tout cas, on a l'impression que c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et c'est le ressenti qui fait qu'on a l'impression que c'est plus dur. Et on sera obligé de l'utiliser tous les jours pour, comme les chauffeurs de taxi, ne pas perdre les quelques acquis qu'on avait réussi à avoir. Donc, mon deuxième point pour vous convaincre, c'est qu'on peut tous changer et s'adapter, ça va, mais ça nous coûte des efforts. Et on le sait, d'accord ? Résolution de nouvelle année, j'ai décidé que je faisais du sport trois fois par semaine, que j'arrêtais les pots de Nutella. Ceux qui m'ont déjà entendu, le pot de Nutella est une récurrence dans tout ce que je dis, parce que c'est ma vie. Et du coup, l'effort qui a déployé, il est vraiment, c'est un vrai frein. C'est-à-dire qu'il va falloir se dire, je dépense de l'énergie pour arriver à cette nouvelle version de moi-même. C'est ça qu'il va falloir essayer de faciliter pour réussir ce changement. Donc si je le mets différemment, d'accord, quand il y a très peu d'efforts, les choses sont faciles, d'accord, très peu d'efforts à fournir, c'est facile, beaucoup d'efforts à fournir, c'est difficile, beaucoup de changements se situent ici, beaucoup d'efforts à fournir, d'accord, cet effort biologique de créer de la matière pour mon cerveau, c'est de l'effort. C'est vraiment, c'est comme d'apporter de l'électricité. Pour produire de l'électricité, ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie pour la produire. Donc on se retrouve ici. Et de l'autre côté, on a un outil super pour nous aider à surpasser nos efforts, pour nous aider à ne pas rester coincé devant l'effort en disant « non, trop d'efforts, je ne le fais pas ». C'est notre motivation. Et cette motivation, elle n'est pas exactement... Si on pouvait la manier comme on veut, ce serait super. Mais déjà, soi-même pour soi-même, c'est pas si simple. Soi-même pour les autres, c'est pas si simple non plus. Si c'est trop facile dans la vie, s'il y a des choses trop simples à atteindre, on n'est pas hyper motivé. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on aime bien un petit challenge, un petit défi. Si on me donne quelque chose à faire et que je sais le faire déjà depuis toujours, bah c'est sympa, mais tu vois, c'est pas très motivant. Pour aller travailler, un job où on fait tout le temps la même chose, qu'on connaît par cœur ce qu'on fait, ce ne sera pas motivant en soi. Il y a plein d'autres facteurs de motivation, mais l'action en elle-même, elle ne sera pas très motivante. Par contre, si c'est trop difficile, pas motivant du tout, parce qu'on perd notre capacité d'agir. On se dit, en fait, ça ne sert à rien, puisque je ne peux pas le faire. C'est trop dur pour moi, donc on n'y va pas, on abandonne. On ne commence pas, ou on y va, et puis on s'arrête. Donc il y a une question un peu de juste milieu, où il faut trouver cette zone où l'action en elle-même, le changement lui-même, il est motivant, parce qu'un peu difficile, mais pas trop. Donc là, déjà, on se perd soi-même parce qu'on se dit, bah, ok, super, il faut un petit challenge, mais pas trop difficile. Et la vie ne fait pas cette pondération pour nous. D'accord ? Il y a des choses très difficiles qu'on doit quand même faire. Bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et il y a d'autres motivations que ma motivation intrinsèque pour l'action elle-même. Par exemple, un salaire, c'est motivant. Par exemple, des vacances, c'est motivant. Par exemple, être avec les gens qu'on aime, c'est motivant. Par exemple, sauver la planète, c'est motivant. Donc, il y a plein de choses qui sont motivantes. Mais en fait, dans chaque geste qu'on doit faire au quotidien, on se retrouve avec cette balance. Et ça fluctue. Ça fluctue dans la perception qu'on en a. Dans quelle motivation je pense vraiment avoir. Je vais vous dire ce que moi je pense est la motivation, maintenant que j'ai dit ça. Pour que vous vous disiez, bah, si je dois agir sur la motivation, comment je fais ? Pour moi, la motivation, ce sont nos émotions. C'est ce qu'on ressent au quotidien. Donc encore une fois, je viens avec ma casquette, un peu biologiste, neurosciences, un peu de psycho derrière, mais pas beaucoup. Et des gens en psycho pourraient avoir un discours un peu différent. Puis alors, quand on sort de ce champ, c'est encore une autre approche. Donc moi, la mienne, c'est celle-là, qui vient de recherches sur justement nos circuits cérébraux autour des émotions. Et là, comment marchent les émotions, qui pour moi sont nos motivations? Si je ressens rien, bah, je ne bouge pas, je ne fais rien en fait. J'ai quelque chose qui déclenche l'émotion, il y a une cause. Donc là, j'ai mis un tableau de mathématiques parce que 50%, si je faisais un petit test, de la population va fuir devant ce tableau. Ça déclenche une peur, un stress, mais ça pourrait être la fin du monde qui fait peur, ça pourrait être... En fait, qu'est-ce qui déclenche la peur chez nous, les uns et les autres ? On n'a pas tous les mêmes déclencheurs, mais il y en a qui sont très 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 communs à notre espèce, donc tout ce qui peut nous tuer pour de vrai, et puis après il y a des choses qui ne nous tuent pas pour de vrai, mais qui font peur. Ça active le circuit de la peur, qui est un circuit très, très ancien, très primaire, que tous les mammifères ont, et en 3 dixièmes de seconde, quand ce circuit est activé, on se retrouve déjà en mouvement pour partir en courant. C'est notre première réaction, je vais éviter ce qui me fait peur. D'accord ? Ce comportement là-bas, c'est de l'engagement, c'est je suis en train de faire quelque chose, j'agis, j'ai une action, et une action que je peux avoir, c'est d'éviter ce qui me fait peur. Et c'est une très très bonne réaction, c'est comme ça qu'on a survécu aux prédateurs, aux gens avec un fusil ou une flèche en face de nous, un arc ou je sais pas quoi, on part en courant. Si on ne peut pas partir en courant, on a été sélectionné quand même pour pas juste être des fuyants, parce qu'on a d'autres cordes à notre arc, ben on va combattre. Donc si je suis coincé dans un coin, que j'ai très peur des araignées et que je peux pas l'échapper, je vais finir par l'écraser probablement. Si je suis phobique et que ça va vraiment pas, je risque d'être complètement tétanisé. Je pourrais rien faire. Et la phobie étant une maladie, c'est pas parce qu'on peut pas, c'est pas parce qu'on veut pas, c'est que on se retrouve dans un dernier état. On peut pas partir en courant, on peut pas combattre, et ben là on est paralysé, on est figé. Ce côté figé, c'est la petite souris qui fait la morte, comme on voit parfois dans les dessins animés, en espérant que le chat ait fini de jouer avec elle et qu'il n'ait pas trop faim. C'est le dernier recours qu'on a pour survivre. C'est vraiment, en tant que mammifère, la dernière chance que j'ai pour essayer de survivre. Personne ne veut être dans cet état-là, c'est très traumatisant en tant qu'individu. Et puis, on a un autre circuit. Il y a bien d'autres circuits, hein, parce qu'il y a d'autres émotions, mais je prends ces deux principaux qui sont centraux dans nos comportements. Le circuit de la récompense, qui est le circuit du plaisir. C'est le circuit de la dopamine, si vous avez entendu parler de tout ça. C'est là où on a notre striatum, si vous avez lu un peu les livres de Sébastien Boller et tout ça. Donc, c'est quoi ? Il y a une cause de la même façon, il y a quelque chose qui va déclencher ce circuit de la récompense. Donc là, par exemple, être avec quelqu'un qu'on aime bien, travailler ensemble, gros circuit de la récompense activé, ça fait vraiment plaisir, on voit les gens sont heureux. Ça déclenche ce circuit, dans mon cerveau, il s'active, et très rapidement, ça déclenche un comportement de vouloir y retourner, de vouloir le refaire. Donc c'est pour ça qu'on est sur une politique aujourd'hui éducative, on essaye en tout cas d'être sur ce moteur-là, le moteur plaisir, plus que sur le moteur faire peur, mais les deux marchent très bien, d'accord ? Ça fonctionne très très bien de faire peur ou de donner une récompense. Après, il y a des récompenses qui durent longtemps, le Nutella c'est très court, être avec des gens qu'on aime bien c'est très long, et ça sature jamais. Le Nutella on sature, au bout d'un moment c'est plus bon, c'est plus génial. Être avec des gens qu'on aime, en général, ça sature pas, sauf quand les relations changent, mais la saturation du circuit de la récompense, elle arrivera pas, elle arrivera presque jamais. Donc c'est des causes de cette émotion qui sont plutôt durables. Donc moi, mon point là-dessus, c'est que quand je veux être motivée, si j'ai envie de me dire que je passe à l'action et que je fais quelque chose, j'ai tout intérêt à essayer de trouver des choses qui déclenchent des émotions chez moi. On n'est pas obligé d'être tout le temps sur la peur ou la récompense. Il y en a d'autres. Il y a la colère qui permet de réparer les injustices. Il y a plein d'autres émotions. Et puis, il y a des gradients très vastes dans les émotions. Mais c'est ça qui fait que je me mets en mouvement, parce que c'est inscrit dans mon corps, c'est inscrit dans mon cerveau, que si je ressens cette émotion, je me mets en mouvement. Tout mon corps va être activé pour bouger. Quand j'ai ce circuit qui s'active, je produis de l'adrénaline, je produis des hormones et des neurotransmetteurs pour que mon corps entier se mette en action, pour promouvoir vraiment le côté « faut bouger, faut faire quelque chose ». Donc c'est fait pour ça. Et maintenant, notre gros défi sera comment... Est-ce que je mets ça en lien dans la continuité d'une vie ? Je suis motivée aujourd'hui, maintenant, par quelque chose, mais je suis aussi motivée pour dans un jour, dans 10 jours, dans 2 ans. Et c'est là où ces motivations vont être multiples. Je ressens de la peur à l'idée que... Donc encore une fois, je prends mon exemple parce que je suis dans ma tête, c'est plus simple. Je ressens de la peur à l'idée que j'ai des maladies chroniques plus tard parce que je suis obèse. Donc il faudrait que je bouge aujourd'hui. Mais ça ne me fait pas bouger, ça ne me fait pas sortir de mon canapé du tout. Juste, ça me fait peur. Alors que si je vais regarder une petite série que j'aime bien sur mon tapis de course à la salle de sport et qu'il n'y a que là-bas que je peux voir la suite, ah ben j'y vais, je sors de mon canapé pour y aller. Donc j'ai ces deux émotions que je ressens en même temps. Mais l'idée, c'est comment celle-là, qui est pour du très long terme, dans 10 ans, s'accorde avec celle de maintenant, où je dois sortir de mon canapé pour y aller. Et là, moi, j'ai trouvé un truc, c'est qu'il faut que je me fasse plaisir maintenant. Donc, je vais voir la suite de ma série, parce que sinon, je ne sais pas ce qui se passe. Drame. Donc ça, ça m'aide beaucoup. Et il y a plein d'émotions qu'on ressent à propos de tout un tas de choses. Donc, il va falloir, pour moi, jouer avec toutes ces émotions qu'on a à propos d'un sujet, 10 sujets, notre vie, très complexe. Et je n'ai pas la réponse, hein, c'est pour ça qu'on est là, Café, Débat et Science. Mais il y a quand même une vraie complexité dans ces émotions qu'on ressent, qui nous motivent à faire des choses, et des décisions éclairées qu'on voudrait prendre, ou des choix pour le futur, pour maintenant, qu'on voudrait prendre, et on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à les prendre. Je vous fais faire un truc. Est-ce que vous voulez bien classer dans votre tête les jours de la semaine le plus rapidement possible ? Donc les jours de la semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Maintenant, il faut les classer dans l'ordre alphabétique dans votre tête, assez rapidement. Je vous fais travailler, je ne sais pas si vous avez mangé encore ou pas, mais vous dépensez un peu d'énergie pour ça. J'en vois qui travaillent, merci. J'ai une conclusion derrière, j'ai une petite morale à ce que je vous fais faire, vous inquiétez, c'est pas juste pour faire un petit break. Ah non, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est pas dans l'ordre alphabétique. On aimerait bien, mais non. Là, il faut, le premier, ça va être quoi ? Dimanche. Le deuxième, jeudi, lundi, mardi, samedi, vendredi. Merci beaucoup d'avoir joué. Pourquoi vous étiez motivé à jouer à ce jeu ? Pourquoi vous l'avez fait, ce jeu ? Qu'est-ce qui vous a motivé là ? Moi, en termes biologiques, je vous ai demandé de dépenser de l'énergie pour quelque chose où concrètement, vous ne gagnez rien derrière, ce n'est pas un talent qu'on va acquérir, c'est pas... Pourquoi est-ce que vous l'avez fait ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Comment ? Non, il n'y a pas de pot de Nutella, je les garde précieusement quand même. Le challenge, il y avait un petit défi, est-ce que je suis capable ? Pas très long, c'est rapide, on va jouer, on essaye. C'est ludique, le côté jeu, ça on aime bien le jeu, c'est plaisir, le jeu c'est plaisir en soi, donc ça marche. Je rentabilise, je suis là une heure, est-ce que vraiment ça vaut le coup, je fais quelque chose, ok. Se rassurer sur son image et ses capacités, ouais. Donc là on se dit, est-ce que je suis capable de le faire, je vais essayer, ok c'est bon, j'y arrive encore, c'est cool, je peux le faire. Participatif, je ne veux pas être le seul à ne pas le faire alors que tout le monde le fait, j'ai envie de participer au truc. Donc il y a un effet peut-être social aussi dedans. Donc là, vous avez plein de raisons de le faire, pas toutes les mêmes. Ça, c'est vos moteurs à vous. C'est ce qui vous meut au quotidien. J'aime bien ne pas être le seul quand dans un groupe, tout le monde fait un truc, je veux faire partie du groupe. On a tous ça en général, sauf quelques exceptions. J'aime bien le petit challenge, j'aime bien le jeu. J'ai envie de voir si je suis capable, mes compétences à moi, je veux m'accomplir. Et on n'a pas tous au même endroit les mêmes émotions qui se déclenchent par rapport à ça. Maintenant, je vous fais jouer à celui-là. Donc là, il faut classer les chiffres de 0 à 20. Essayez, juste essayez pour voir ce que ça vous déclenche. Mais ça vous a déjà déclenché ça, je sais. 0 commence par un Z, U par un 1, 2 par D, 5, 2 par D. On abandonne. Mais j'aimerais que vous essayiez, juste essayez de le faire. Oui. Non, il n'y a pas de papier crayon, sinon c'est pas pareil. Tout le monde a essayé, au moins essayé. Tout le monde se rend compte que c'est trop. C'est trop, je vous ai donné quelque chose d'un peu trop à faire pour que ça se passe dans notre tête. Il y a une dame qui a réclamé un papier, elle a raison, il faudrait qu'on puisse écrire. Ce serait ce qui est normal et de sain à faire, en fait, quand je vous propose ça. Là, il y a beaucoup trop de choses. Notre mémoire à court terme, notre mémoire de travail qui me sert à manipuler des choses dans ma tête, elle est complètement saturée, elle ne peut pas fonctionner. Donc de lundi à dimanche, ça va à peu près. Il y a 7 choses à trier, puis il y en a 3 qui sont déjà dans le bon ordre, lundi, mardi, mercredi, d'où l'ordre, je pense, madame disait, c'est déjà dans le bon ordre. Mais là, c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment pénible et horrible. Et donc là, vous n'avez été pas du tout motivé à le faire. Vous abandonnez avant de commencer, je vous force un peu, vous essayez, et vous pouvez vous y mettre à plusieurs. Donc là, vous avez une autre façon de vous motiver, de se dire, tout seul, ça ne va pas le faire. Si on en fait chacun un petit bout, peut-être qu'on va y arriver, ou on essaye de se faire une petite méthode collective, peut-être qu'on peut le faire à plusieurs plutôt que seul. Donc il y a des façons de surmonter cette difficulté à atteindre. On peut trouver des trucs. Là, on fait aller écrire sur le papier, c'est un truc pour nous aider, parce qu'on n'est pas motivé en l'état. Faire à plusieurs, parce qu'on n'est pas motivé en l'état, il y a une façon de faire, et il y a plein d'autres façons de faire. Mais globalement, il y a des choses qui nous motivent d'entrée de jeu et des choses qui nous démotivent d'entrée de jeu. Là, c'est très démotivant, celui d'avant était motivant. Et si vous voulez essayer de penser à la motivation d'une façon un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, vous pouvez réfléchir aux émotions que ça vous crée. Quand vous avez vu ça, vous êtes dit « Oh là non, en fait, horrible !» Parce qu'on va devoir dépenser un gros effort pour peu de récompenses. Ça, c'est pas sexy. Un gros effort pour beaucoup de récompenses, c'est intéressant. Si je gagne beaucoup derrière, et en général, le challenge lui-même, c'est une grosse satisfaction quand on arrive à le faire, c'est une récompense, cette satisfaction d'avoir réussi à le faire. Donc il faut trouver ce qui va nous aider à surpasser et à vouloir faire ce jeu. D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on a envie de le faire ? Que ça ait du sens, que ça serve vraiment à quelque chose. Donc par exemple, comprendre ce qu'on fait ici, peut-être, mais pas complètement. Je pense qu'elle va nous dire quelque chose à la slide d'après, ça sera suffisant. Ok ? Donc, que ça ait du sens. Ouais. Donc, que là, moi, j'arrive à trouver quelque chose où toi, tu te dis, bah oui, ça me parle énormément, je vais le faire, son jeu. Ouais, c'est important pour toi. Ok ? Alors, il faut, si vous êtes autiste, j'espère que c'est le cas, parce que sinon, du coup, c'est... Mais effectivement, si on a une tendance à vouloir vraiment être dans la performance, ou à vouloir vraiment voir qu'on est capable, ça peut marcher. Et le côté très difficile, pour vous, c'est un vrai challenge, et vous foncez, vous y allez. Pour une majorité, c'est peut-être pas le cas, il faut trouver le bon degré, mais il y a une façon de le faire. Il faut trouver des gens pour qui ça, c'est un défi et un plaisir d'entrée de jeu. Ok ? Ça, c'est une solution. Être le premier à trouver, ça peut être une vraie motivation. Donc on a la compète, on a envie d'y aller, et la récompense, c'est d'être le premier, ça nous, effectivement, ça fait plaisir, c'est hyper satisfaisant. J'ai réussi, ça valide qu'on sait le faire et qu'on est bon là-dessus, carrément. Donc ce sera ça, nos défis dans la vie, quand on veut un changement, qu'on veut faire quelque chose qui nous paraît inaccessible. Moi, là, tout de suite, je ne suis pas assez récompensée pour le faire, c'est clair. Puis vous voyez, je fonctionne au pot de Nutella, il me faut des récompenses. Donc il va falloir qu'il y ait quelque chose derrière pour que je me dise, il faut vraiment y aller. Et ce sera ça un peu le défi. Je rentre là un petit peu dans le cerveau pour vous dire comment on prend nos décisions au quotidien. Donc il me reste 2 minutes pour vous dire ça. En gros, à chaque décision que je dois prendre là maintenant, donc on ne parle pas dans 10 ans, maintenant, il se trouve que dans mon cerveau, il y a plusieurs zones qui rentrent en jeu pour m'aider à prendre cette décision. J'ai des zones qui concernent la mémoire, donc toutes les situations que j'ai vécues qui étaient à peu près semblables à celles qui est là aujourd'hui pour laquelle je dois prendre une décision, qui vont s'activer. Donc ça, c'est l'hippocampe, c'est toutes les parties là-bas qui sont... où est mon hippocampe ? À côté de l'amygdale, donc ici, de chaque côté, et toute la partie temporale qui sont à l'intérieur. On a une partie qui va s'occuper de prédire les récompenses. Les récompenses, ce n'est pas forcément monétaire. Hein. Les récompenses, c'est vraiment ce qui me fait du bien. D'accord ? C'est le côté, est-ce que ça va activer mon circuit de la récompense à un moment tout ça ou pas ? Ça peut l'activer maintenant parce que j'anticipe le petit défi et le plaisir que je vais avoir à résoudre ce truc-là. Mais ça peut l'activer plus tard. Je sais que plus tard, j'aurai des vacances. J'aurai un salaire à la fin du mois. J'aurai quelque chose de plaisant. Donc je prédis, est-ce que je vais avoir des récompenses en faisant ça, en prenant cette décision, et j'estime l'effort. J'estime l'effort que ça va me coûter. Donc là, cette zone, le striatum dont on parle beaucoup comme étant la zone qui va détruire l'être humain, parce que c'est lui qui est un peu au cœur du circuit de la récompense, et donc plaisir, 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 dans l'addiction, c'est lui qui déboulonne tout. Il n'y a pas que ça. Ici, on produit, dans le haut du tronc cérébral, on produit la dopamine, on l'envoie. Et là, on est vraiment dans, est-ce que je vais goûter du plaisir avec tout ça à un moment ou pas ? Pour compenser sur l'effort, les deux sont évalués pour se dire, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou est-ce que juste je vais dépenser de l'énergie et ça ne me sert à rien. J'aurai pas un peu le plaisir de quelque chose. Donc il y a ça qui se passe dans mon cerveau et à la fin, il produit la décision. Bon, ben non, en fait, j'abandonne, je ne vais pas faire ce jeu. Parce que là, dans les situations passées que j'ai vécues, on m'a demandé de faire ce genre de choses, ce n'était pas hyper palpitant, ça ne m'intéresse pas, pas beaucoup de récompenses. Elle a dit qu'elle n'allait rien nous donner, pas de récompense. L'effort à faire, il est conséquent, d'accord ? Il faut que je dépense quand même beaucoup d'énergie mentale pour faire ce truc-là, de 0 à 20, c'est long. Donc non, décision, je ne le fais pas. Ça, c'est la décision que je prends maintenant. Et c'est comme ça qu'on prend nos décisions au quotidien. Problème, nos décisions, elles sont aussi orientées sur des choses qui arriveront beaucoup plus tard. J'ai envie, dans 3 ans, d'avoir un diplôme. J'ai envie d'avoir tel métier. J'aimerais bien m'acheter cette maison. J'aimerais bien qu'on sauve la planète. Tout ça, c'est des choses qui arrivent plus tard. Et mes décisions aujourd'hui, elles ne sont pas fortes à prédire la récompense qui arrive dans 20 ans. Elles prédisent la récompense là, maintenant, en faisant l'action que je fais. Donc si l'action elle-même, elle ne me récompense pas, si je ne suis pas satisfait d'avoir relevé un petit défi, si je n'ai pas une petite prime, si je n'ai pas un pot de Nutella, c'est assez dur de me dire « oui, j'y vais », alors que la récompense tout de suite, elle n'est pas visible, quoi. Elle arrivera dans 20 ans. Donc on se retrouve avec ce genre de gradient. Ma récompense immédiate, ça me pousse à l'action. Si j'ai une grosse récompense immédiate, je vais y aller. Si la récompense est dans longtemps, bah, ma décision risque de ne pas être en faveur de ça. Si j'ai une grande récompense versus une petite récompense, j'aurai tendance à prendre une décision en ce sens. L'addiction, c'est ça, on cherche la très grande récompense. Petit effort versus trop grand effort. Donc là, c'est effort moyen, disons, avec un petit challenge, ça marche. Par contre, si c'est trop facile, d'accord, bah, je ne suis pas hyper motivée. Donc je préfère qu'il y ait quand même un petit défi. Si c'est vide de sens, je ne suis pas très motivée. Je préfère qu'il y ait un sens, une mission. Et là, on voit des gens qui déploient des quantités d'énergie et d'efforts pour faire justement des choses où on se dirait, moi, parce que ça ne me parle pas, je n'irai jamais là. Tellement d'efforts, tellement d'énergie dépensée, je n'en vois pas la récompense, je n'en vois pas le sens pour moi. Et quand on dit sens, pour mon cerveau, c'est un peu récompense. Est-ce que ça active chez moi quelque chose qui va me déclencher un peu de plaisir, que ce soit l'accomplissement de moi, la satisfaction ou autre. Donc ça, les économistes, l'économie comportementale est très forte pour mettre en évidence ce genre de choses. Ils donnent de l'argent aux gens ou des choses de valeur, de la nourriture, du temps. Et puis, ils regardent ce qu'ils en font dans différents choix. Et ils voient que les gens font des choix qui suivent ces règles-là, en gros. Et donc, c'est cette difficulté de s'engager dans quelque chose où on sait que le choix est dans le long terme, il est dans longtemps, mais si ça ne suit pas un peu ces règles, ce n'est pas évident. Donc, il y a peut-être une notion du petit pas ou de trouver maintenant, aujourd'hui, ce qui vraiment nous met en mouvement pour réussir à que ce soit au service de ce qu'il y a dans longtemps. Mais juste nous dire... Bah, il faut te mettre au sport là maintenant parce que dans 20 ans tu vas avoir diabète et cholestérol et que ce sera mauvais pour ta santé. En fait, c'est pas motivant, ça respecte pas cet ordre de grandeur là. Mon cerveau, moi, je comprends pas beaucoup ça. Maintenant, pour juste élargir, j'ai pris cette entrée là. Évidemment, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a tout ce qui est social, donc selon nos catégories socio-professionnelles, selon la couleur de notre peau, selon. Qu'on est un homme ou une femme, on n'a pas la même perception de soi-même et donc on ne pense pas qu'on peut réussir des choses ou s'engager dans les mêmes choses. Donc là, il y a des freins culturels. Et la psychologie, selon nos histoires personnelles à chacun, bah, tout ce que j'ai dit là, ça reste vrai, mais ça varie fortement dans est-ce que je vais y aller, est-ce que j'y vais pas, parce que bah, il y a des choses qui nous guident et qui sont dues à notre histoire personnelle et sûrement des tas d'autres facteurs auxquels je ne pense pas, qui sont bien sûr impliqués dans tout ça. Voilà, j'ai débordé de 4 minutes, désolée. On peut discuter. Merci beaucoup.
C'est pas grave du tout parce que c'était passionnant. Maintenant, je vous laisse la parole et surtout le micro. Comme on est nombreux, ben c'est important voilà, de l'utiliser pour prendre la parole. Alors, qui veut se lancer pour la première question ? Je pense qu'il y a quand même quelques questions qui vont arriver, je n'en doute pas.
C'est peut-être un sujet vaste, mais ça marche ou pas? Ouais. Oh, d'accord. C'est le syndrome de Stockholm. Oui. Comment on peut expliquer ça? Enfin, comment le cerveau, je dis, j'ai du mal à comprendre que, mettons, vous êtes, il y a des terroristes qui vous êtes en otage, puis vous avez de l'affection pour ces gens-là. Enfin, oui. Comment le cerveau réagit à cette
Alors,
situation?
Je n'ai pas cette réponse du tout. Oui. Par contre, est-ce que peut-être dans votre vie vous êtes tombé amoureux de quelqu'un et après coup vous êtes dit, je comprends vraiment pas pourquoi? Non, ça vous est jamais arrivé. Vous avez de la chance. Pour moi, ça se rapporte un peu à ça. C'est
non, mais
l'amour, on le regarde dans le cerveau, mais il y a quand même quelque chose de magique. Alors là, vous parlez pas d'amour, il y a oui. une question d'affection.
Il y a le contraste.
Ouais, mais je pense, vraiment, moi, en termes, je suis très nulle dans les comportements individuels. J'aurais pas de. Pardon.
Vous parlez du circuit de la peur tout
oui.
à l'heure.
Oui.
Au départ, il y a quand même une peur.
Peut-être. Alors, je ne sais pas. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui... les gens qui font le grand 8, qui sautent en parapente, tous ceux qui cherchent le risque, ils prennent un plaisir à ressentir un peu de peur. Puis il y a ceux qui détestent les films d'horreur, oui. ceux-là, pas du tout. Aucun plaisir à avoir un petit peu de peur. Et ça, c'est des comportements qui sont un peu différents, mais nous, je me mets dans la majorité parce que c'est la majorité statistique dans la littérature, il y a une aversion au risque, c'est-à-dire que de façon un peu basique, on n'aime pas trop prendre trop de risques, d'accord ? Donc peut-être que les gens dans le syndrome de Stockholm, mais je ne suis pas du tout spécialiste de ça, donc je ne saurais pas vous répondre, donc, peut-être que eux, ça ne leur fait pas si peur que ça, et que du coup, ça laisse une autorisation d'être dans une relation affective avec la personne qui est là. C'est possible, mais j'en sais vraiment rien.
Oui, bonjour. Vous bonjour. Avez parlé de l'opposition entre le plaisir immédiat et puis l'effort, et ouais. à très juste titre. Ouais. Les travaux en économie comportementale, alors Kahneman, Tversky, Dan Ariely, etc., ont montré que les motivations intrinsèques, par exemple la volonté de plaire au groupe, le besoin d'appartenance, ouais. Très fort et peut être dans l'entreprise des fois plus fort que les motivations extrinsèques, avoir une prime, etc. Mm-hmm. Et peut-être que donc, dans l'avenir, le fait qu'on n'est pas que matérialiste et que ce qui me fait plaisir aujourd'hui, merci les publicistes, c'est d'avoir une grosse voiture parce que ça me donne une importance d'un point de vue social. Si demain on change les normes, on va toujours activer ce besoin de plaire aux autres, ce besoin d'appartenance, mais au travers d'une voiture plus parcimonieuse ou d'un comportement plus adapté. Donc on peut transcender sans nier la biologie qu'on ne pourra pas changer, on oui. peut peut-être la transcender en s'appuyant sur cette réalité.
Oui, merci beaucoup pour ce point. Donc là, c'est une proposition de solution qui est vraiment intéressante. C'est que pour donc je reformule, mais voilà, c'est que on a effectivement un désir fort de faire partie d'une communauté, de pas être rejeté des autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est une récompense pour nous, pouvoir faire partie du groupe, pouvoir être comme le voisin. Et il y a des études et terrain qui montrent qu'effectivement, si on vient vous voir en vous demandant de donner des sous pour une association et qu'on vous dit que tous les voisins de votre immeuble ont donné des sous, vous avez plus de chances de donner des sous parce que vous voulez pas être le seul à ne pas donner de sous. Vous voulez faire partie du groupe. On veut faire partie du groupe. Donc ça, c'est des choses qui ont été montrées. Merci pour cette remarque. Et effectivement, si on change un peu nos critères de comment je fais partie du groupe, d'un certain groupe, et que ce n'est plus des critères qui sont au détriment d'objectifs futurs, sauver la planète, alors on peut effectivement arriver à satisfaire ce désir immédiat. Oui, je veux une belle voiture, une grosse voiture. Peut-être que ça, c'était pour appartenir au groupe d'élite de l'époque, mais le groupe d'élite aujourd'hui, c'est la petite voiture, plutôt peu consommatrice, électrique ou autre, ou je ne sais pas. Et dans ce cas-là, on répond quand même à ce besoin de vouloir faire partie du groupe de mon élite où on est super, etc. Mais en étant en accord avec sauver la planète. Donc ça, c'est, merci, ça fait une solution sur laquelle on peut tabler en tant que société, sur laquelle agir. Ouais.
Moi, j'ai une question. Pardon. Je suis tout au fond. Alors, c'est quelque chose qui est un petit peu en lien avec la question précédente, mais moi, j'avais entendu qu'il y avait une différence entre le plaisir et le bonheur, et que ce n'était pas tout à fait les mêmes hormones. Et ouais. Du coup, quand on parlait là de circuit de récompense, pour moi, c'était pas tout. Enfin, on a mis un peu tous les deux notions dans le même dans le circuit de la récompense, et je me dis en fait, il doit y avoir quand même des variations. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Oui, bien sûr. Du coup, moi, j'ai pas parlé de bonheur pour éviter de mettre tout dans le circuit de la récompense, c'est plus simple. Mais effectivement, si on parle de bonheur, on n'est plus dans le circuit de la récompense. De ce que je connais de la littérature aujourd'hui là-dessus, le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas juste une émotion maintenant. Circuit de la récompense, c'est une émotion maintenant, c'est bref. C'est pour ça que c'est très impliqué dans la décision que je fais aujourd'hui maintenant, beaucoup plus fortement que toute autre chose. Et le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas bien défini dans le cerveau. Ça implique d'autres hormones, donc on parle de la sérotonine beaucoup quand on veut parler du bonheur, parce que c'est plus la sérotonine, c'est plus la sérénité, c'est vraiment le plaisir de prendre son café sur sa terrasse avec un beau paysage, d'accord, c'est pas une émotion de ouf en termes d'intensité plaisante, de plaisir, mais il y a une espèce de sérénité, de calme assez agréable, ça se rapproche peut-être un peu plus de ça, le bonheur, mais surtout c'est pas une émotion, le bonheur c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose qui et j'ai pas une bonne définition de ça pour le cerveau, pour ce qui se passe dans le cerveau, donc je pourrais pas dire, mais bien sûr que ces objectifs à long terme et réussir à les accomplir dans le temps, construire son identité, donc des choses qui sont pas dans l'immédiateté, qui sont pas dans la décision là maintenant, ça joue dans la balance et ça nous aide sûrement à prendre des décisions là maintenant qui sont un peu différentes de ce que j'ai mis là, où là je vous ai vraiment mis, pardon, je reviens encore en arrière, là je vous ai vraiment mis, non il veut pas, les choses qu'on voit bien à l'IRM, qu'on connaît bien dans la décision, et il y a sûrement plein d'autres choses en fait, c'est pas aussi clair que ça, donc je suis d'accord que le bonheur joue sûrement un rôle, je saurais pas où le placer et je sais pas à quel point ce bonheur ou réussir à atteindre un sentiment de bonheur va participer de mes décisions aujourd'hui et dans le temps pour m'engager, pour changer, pour faire tout ça. Mais vous avez raison, c'est pas dans le circuit de la récompense et c'est autre chose qui doit influer dessus. Voilà ce que je peux commenter.
Merci. Vous avez souligné la différence de plasticité cérébrale entre l'enfant et l'adulte par rapport à cette motivation, cette décision. Que sait-on du cerveau de l'adolescent?
Donc on sent la maman peut-être.
La prof.
Donc là, appelons sur ces spécificités dans l'âge et le développement. Quand on est adolescent, on n'a pas encore fini de maturer son cerveau, puisque c'est 20-25 ans. L'adolescence vraiment finit à 20-25 ans en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est tard. Par rapport à ce qu'on pense dans notre société, puisqu'on nous donne un droit de vote à 18 ans. Donc on se retrouve avec un cortex ici préfrontal qui n'est pas encore bien développé, il n'est pas mature. Et ce cortex préfrontal là, c'est la partie un petit peu planification, vision à long terme, organisation. C'est lui qui va dialoguer tout le temps, en permanence, très fortement, avec des parties plus internes, plus limbiques, qui sont mal représentées ici, mais en gros, l'amygdale, le cortex singulaire, qui sont, eux, vraiment impliqués dans les émotions que je ressens au quotidien. Et ce striatum, dans le circuit de la récompense, qui est vraiment la partie de l'impulsivité. J'ai une envie, j'ai un truc qu'on voit très bien chez les enfants tout petits, à 2 ans. Ouh, c'est intéressant, hop, j'y vais, peu importe ce qui se passait. Et ça, en fait, c'est parce que les petits de 2 ans, leur frontal n'est pas du tout connecté, donc il ne sert à rien, il n'y a pas de dialogue, ils sont tout dans le désir immédiat des choses, ils savent se détourner, attendre, ils apprennent petit à petit. Et à l'adolescence, ils savent utiliser leur préfrontal, mais ce n'est pas encore calibré. Ils sont en train de faire les connexions comme il faut pour se définir, en tant qu'adulte, dans ce discours entre mes objectifs à long terme, ma planification, qui je suis, ce que je veux de la vie et tout. Donc c'est vraiment une période assez compliquée. En tant qu'adulte et société, c'est vraiment, je pense, une des conclusions, donc ce n'est que la mienne, notre rôle de continuer à demander que ce préfrontal fonctionne, donc qu'il y ait un cadre, qu'il y ait des normes, c'est à ça que servent les lois, etc., pour que justement ils apprennent à faire ce discours entre leur désir, leur impulsivité et des choses plus long terme, plus durables, plus dans la survie à long terme, etc., etc., qu'à l'adolescence on a du mal à prendre en compte. Donc il faut comprendre que ce n'est pas facile pour eux, c'est vraiment un état compliqué parce que ce n'est pas bien calibré encore, mais c'est normal d'insister pour que ça le devienne parce que c'est comme ça qu'ils vont le développer.
Moi je vais poser une question en lien par rapport à la catégorie sauver la planète, qu'on soit sur ces questions-là depuis 10, 20, 30, 40 ans, selon nos âges, c'est très difficile de garder l'engagement, le sens dans la durée. C'est du très long terme, notre action. Et souvent, il y a de la peur parce qu'on voit les chiffres s'aggraver, etc. Et je voulais juste partager, et ça, c'est notamment pour ça que je suis ici, ça fait presque un an qu'on a créé un cercle de lecture où on lit des livres, où on voit des films qui, en fait, nourrissent nos imaginaires de vers où on peut aller. Et en fait, on a eu des témoignages lorsqu'on s'est réunis la semaine dernière où tout le monde partageait un petit peu, chacun à sa manière, qu'il soit architecte ou autre, ou consultant, etc. On avait tous les métiers, profs aussi, en disant qu'on avait l'impression que ce partage constant en groupe WhatsApp autour de ces récits et des choses comme ça, on avait l'impression de muscler notre cerveau, notre pouvoir imaginaire, et que, en fait, ça nous aidait. Et à travers ce que vous dites là, j'ai l'impression que ça nourrit, en fait, ce sens et cette durée qui, alors qu'on travaille sur du très long terme, et ça nourrit notre motivation court terme de créer de la joie, de la communauté et tout ça. Et en tout cas, parce que c'est vraiment dur de travailler sur ce long terme-là et garder la motivation, alors que vraiment tous les chiffres nous montrent qu'on devrait juste se fermer là.
Merci beaucoup, c'est un très bon point. Et il y avait une personne qui m'avait dit, mais en fait, vraiment déprimée, anxieuse. Voilà à quoi ça sert, en fait, puisqu'on n'est pas capable, nous, en tant qu'espèce, de faire quoi que ce soit. On va dans le mur, on le sait, notre striatum, blablabla, etc. Et vous avez raison, il y a des solutions. Et là, ce que j'aime dans ce que vous dites, peut-être, c'est qu'en fait, on a aussi une mémoire prospective, c'est-à-dire qu'on a une mémoire du futur. On a une mémoire, donc on ancre en nous la mémoire de ce qui va arriver dans la journée. Donc, de façon très simple, je sais qu'à midi, je dois faire ça, à 14h, je dois faire ça. Ça, c'est stocké dans ma mémoire, mais ce n'est pas arrivé, c'est pour plus tard. D'accord ? Donc, peut-être faire un groupe de lecture ou se nourrir de choses qui sont un futur potentiel souhaité, ça stocke ma mémoire de situations similaires et ça aide mon cerveau à prendre des décisions plus en accord avec ça, parce qu'il a des référents. Soudain, il a des référents qui ne sont pas « Ah, à chaque fois que j'ai fait cette situation, ça ne m'a rien rapporté. Je fais le tri tous les jours, ok, super, mais je n'en vois jamais, jamais la conséquence. » quoi. Donc là, au lieu que ce soit ça, c'est plutôt « si j'en vois la conséquence. » Parce que dans ce bouquin, là, ma mémoire a stocké une conséquence que je n'ai pas vécue, mais mon cerveau, il fait mal la différence entre la réalité et ce qu'on imagine. Donc ça, c'est un point fort pour nous. Il va se dire, en fait, si, il y a des situations similaires très positives. Ça peut peut-être l'aider au quotidien, et c'est peut-être pour ça. Ça vous aide à avancer en ce sens-là. Merci. Donc ça peut être... Et je pense, j'ai discuté avec... on connaît quand même pas mal de coachs, pas mal de personnes qui font de l'accompagnement au quotidien. On ne sait pas faire ça, moi je suis nulle là-dedans. Mais il y a effectivement beaucoup de ça dans les techniques, les thérapies cognitivo-comportementales, toutes ces choses-là d'accompagnement qui renforcent en fait des choses souhaitées, des comportements souhaités pour qu'ils prennent plus de corps et qui nous aident à aller dans la direction où on veut.
Oui, donc alors moi aussi je suis enseignante mais dans le supérieur, donc les étudiants ont de 20 à 24 ans.
D'accord.
Et je suis face en école d'ingénieur, je suis face à des étudiants qui pendant deux ans ont fait beaucoup d'efforts et qui ont travaillé sur un certain nombre de disciplines restreintes, la physique, les maths, sciences et ingénieurs. Et quand ils arrivent chez nous, on en a une partie qui ne s'engage pas, qui ne veulent plus faire d'efforts. Qui ne s'engage pas. En plus, je viens de corriger un partiel là, ce matin. Donc,
c'est la déprime.
Et j'ai essayé de comprendre un petit peu qui était quoi. Enfin, voilà. Du coup, il y en a qui ne viennent même plus en amphithéâtre. Ils ne viennent plus suivre des cours. Les TD, ils viennent parce qu'ils sont obligés. Mais même en TD, ils n'arrivent pas à rentrer dans une activité. Donc voilà. Donc je me suis dit, est-ce que c'est lié ? Est-ce qu'ils ont trop fait d'efforts, certains, et c'est bon, ils ne veulent plus en faire ?
Ou je ne sais pas.
Est-ce qu'on leur demande trop de choses maintenant ? Et le diplôme, donc, c'est dans 3 ans.
Non, je pense pas qu'on demande trop de choses à qui que ce soit. Je pense que on est quand même dans une situation pour tout le monde, et le baromètre de santé mentale, les baromètres, tout ça, sont pas joyeux. Donc tout le monde en ce moment prend cher, on prend tous cher. La situation économique est pourrie, les perspectives de futur sont pourries. Donc si on reste là-dedans, la motivation pour y aller au quotidien, elle est dure, elle est vraiment dure. Et je pense que les jeunes, ils prennent très très cher, parce que vraiment, c'est peut-être pas nouveau. Alors notre société actuellement peut-être fait en sorte que en tout cas ça se manifeste plus et qu'avant ça se manifestait pas, je sais pas. Mais je crois que tout ce qu'on dit là, c'est des choses qu'on peut essayer de mettre en place pour globalement essayer de se dire il y a des choses à faire, on va y arriver, ça va être joyeux et glorieux, mais on n'est pas dans la légèreté, on manque de légèreté quoi, c'est lourd tout le temps. Donc le fait qu'ils soient pas motivés en cours pour apprendre physique et maths, j'ai envie de dire mais plus maintenant quand ils arrivent là-dessus. Peut-être que ça n'a rien à voir, je ne sais pas du tout. Ça sort vraiment de mon cadre, mais je... Ouais.
En prépa, du coup, donc les deux années où on bosse beaucoup, on a la motivation des concours qui va en fait avoir un impact assez important sur l'école qu'on va avoir et les écoles donc, qui offrent des, pour le coup des, bah, derrière un diplôme bien différent. Une fois qu'on est dans l'école, il y a déjà un truc de... Bah, sur le...
C'est gagné.
C'est ça, c'est déjà un peu gagné. Globalement, on sait très bien qu'une fois qu'on est là, on va avoir le diplôme. Les pourcentages de personnes qui sont rentrées dans l'école et n'ont pas le diplôme est quand même assez faible. Et en fait, qu'on réussisse ou pas l'examen là, tout de suite, maintenant...
Pas grave.
Bah en fait, ça fera pas qu'on loupera la matière. On aura d'autres moments pour se rattraper et pour réussir la matière. Et donc, enfin, moi, ce que j'ai pu voir sur ma promo, c'était qu'en général, bah, on mettait un coup d'accélérateur juste avant le partiel qui avait vraiment du poids. Et puis que le reste du temps, bah, c'était pas si grave. Et on n'avait pas, en fait, c'est la récompense. En fait, la récompense n'était pas suffisamment importante. Et surtout, les premières années, on ne voit pas l'intérêt d'apprendre ça pour notre métier futur. Et par contre, en troisième année, là où on avait fait un stage du coup déjà en entreprise, on se rendait vachement plus compte de l'intérêt de ce qu'on apprenait. Et donc en troisième année, on était tous beaucoup plus impliqués dans les cours. Mais c'est après c'est du coup la vision de ma promo et qui oui. résonne un peu avec ce que vous avez pu nous dire. Merci beaucoup pour la présentation d'ailleurs.
Merci. Voilà, ça. Je pense qu'elle répond bien mieux que moi à cette question. Merci beaucoup.
Oui, moi j'avais une question. Enfin, je vois qu'il y a une grande hétérogénéité entre la motivation de certains, la capacité de travail. Ouais. Est-ce qu'on sait si ça c'est vraiment dû à la personne, au niveau génétique, au niveau biologique, ou est-ce que c'est l'éducation, l'environnement qui va façonner la capacité de s'engager ou non dans certaines tâches? Et je me suis toujours demandé si on savait faire la différence ou pas.
Ouais. Je pense pas qu'on puisse prendre une personne et dire ça c'est dû à sa génétique, ça c'est dû. Je crois pas qu'on soit du tout capable de faire ça au jour d'aujourd'hui. Et tant mieux. Mais il y a clairement une petite partie génétique qui est nos personnalités, nos tendances, une énorme partie d'environnement, d'éducation et de société. Et c'est ce que je disais, les effets de genre, par exemple, sont vraiment culturels. Les effets de catégories socio-professionnelles sont culturels. Si je grandis dans une tour avec toute la population immigrée autour de moi et que j'en sors jamais, mes perspectives de me dire que je peux faire des choses, elle est grande comme ça, versus quelqu'un à qui on a montré le monde, à qui on a donné beaucoup de moyens, et qui se sent être normal dans tout ce cadre, bah, sa perspective à lui et sa capacité d'engagement, elle est énorme, parce qu'il se dit, tout simplement, je peux. Il ne se pose pas cette question-là. Donc oui, une grosse partie, c'est culturel, cette capacité à se mettre en action, à s'engager, à faire, et de notre environnement, et puis d'éducation personnelle, quand on grandit dans des milieux où on nous critique beaucoup, où on nous diminue, tout ça, forcément, ça n'aide pas à se dire, je suis capable, je vais y aller, versus, t'es génial, c'est super, etc. Et vraiment, là, on voit des différences culturelles. L'Amérique du Nord, qui est très... On est top, on peut le faire et on grandit, ils sont biberonnés à ça dès un an. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais ça a le mérite d'avoir des gens qui font, c'est qu'ils se disent je peux. Après, parfois, ça nous paraît hyper arrogant et cette surconfiance. Mais du coup, ils vont dans l'action et ils essayent des trucs peut-être un petit peu plus que nous, où on est plus humble sur ces choses et on se dit est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Et là, on voit vraiment une différence homme-femme flagrante quoi, dans l'éducation et dans je peux y aller, je peux pas y aller, qui change, hein, bien sûr, tant mieux. Mais donc pour moi, il y a une grosse. Enfin, on a énormément de poids pour agir sur cette partie-là. Le côté génétique, il existe, mais il est complètement négligeable face à l'apport de tout le contexte dans lequel on grandit.
Bonjour et merci. Que sait-on de l'impact sur le cerveau et son fonctionnement avec l'invasion du numérique et du virtuel qui va avec? Merci.
Donc, en termes de changements vraiment architecturaux, rien, parce que c'est beaucoup trop court en termes d'évolution pour qu'on ait changé vraiment l'architecture de notre cerveau génétiquement. Il faudrait encore 100 000 ans de ça pour que ça ait un impact tout de suite. Par contre, ça a des impacts dans nos façons de fonctionner. C'est-à-dire que avoir les choses à disposition là tout de suite, pouvoir noter des trucs tout de suite, bah, ça soulage, par exemple, un côté positif, c'est que ça soulage beaucoup nos mémoires de travail. Les choses qu'on doit faire peuvent être déposées à plein d'endroits et toujours accessibles sur le cloud, etc. Par contre, du coup, on est en hyperconnexion, on est surchargé de plein d'informations parce que bah, on a l'impression qu'on peut tout absorber, ce qui n'est pas du tout le cas. On est très limité pour absorber de l'information, on ne peut pas tout prendre à la fois. Et on a ces outils qui sont comme si on pouvait tout faire d'un coup. Donc il y a des effets sur notre fonctionnement, mais il n'y a pas d'effet sur, pour l'instant, notre qualité d'être humain. On est toujours comme Cro-Magnon, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans toutes ces années. Par contre, notre environnement a beaucoup changé, et c'est pour ça que parfois s'engager dans des directions qui sont contraires un peu à l'immédiateté de survie, qui était vraiment Cro-Magnon. Cro-Magnon, il n'avait pas trop le luxe de faire des plans pour dans 40 ans. Ça, c'est plus dur pour nous. C'est un peu plus dur pour nous. Construire, bâtir, voir loin, on le fait. On y arrive et c'est toute la force de notre société. Mais l'évolution de notre cerveau, elle est pas. Il n'y a rien là pour le numérique et pour le côté virtuel en termes ancrés dans l'ADN. Quoi.
Avant un petit mot de conclusion, il nous reste juste le temps d'une ultime question, s'il y en a une. Ou si on n'a pas, c'est pas très grave, bah ça te laisse plus de temps pour pouvoir justement un petit mot de la fin et peut-être pour nous un message à emporter justement sur cette question, comment s'engager. Et c'est vrai que nous, la Galerie Eureka, la problématique des transitions, c'est quelque chose sur lequel on travaille, notamment avec les plus jeunes, et on a vraiment besoin d'outils parce qu'on ne sait pas comment aborder ce sujet. Donc voilà, ça peut être la question qui peut servir de tremplin pour cette conclusion.
Ouais, moi j'aime bien faire un parallèle avec... avec le fait qu'on a la chance d'avoir la force d'une société. C'est très fort, une société, ça nous impose vraiment des normes sociales qu'on suit sans même s'en rendre compte. Donc je prends souvent l'exemple que tu as déjà entendu, je pense, que moi si je dois rouler à 110 sur l'autoroute, il faut simplement que la loi me dise tu vas pas au-delà de 110 et je vais rouler à 110. Je n'irai pas au-delà parce que la loi me l'impose. Et donc en fait on a beaucoup d'outils à notre disposition qui peuvent nous aider à changer, qu'on le veuille ou pas. Et on n'est pas obligé de faire ça, on n'est pas obligé de forcer le changement, mais il y a plein de choses possibles. Et je pense que ce qui pourrait être utile, je ne sais pas si le gouvernement fait ça ou pas, mais c'est de faire une concertation, effectivement, de ce qui s'est dit là. C'est-à-dire, maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on aide à changer dans le temps? Je sais qu'au ministère, par exemple, ils ont créé une commission, ils financent un laboratoire avec lequel j'ai travaillé, pour aider les gens à changer de comportement alimentaire, puisqu'il y a effectivement là un cas de santé publique. Quand on mange mal, il y a beaucoup de maladies associées très vite. Et c'est pas que l'obésité, c'est beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le poids. Et donc, il y a des réflexions à avoir sur comment on s'aide à changer quand on veut changer, mais comment on aide une population à changer à une échelle d'un pays, qu'elle le veuille ou pas, pour aider à mettre en place des choses qui vont leur faciliter les choix dans la direction de quelque chose de un peu plus sain pour la santé, et donc peut-être un peu plus vert pour notre pays en général. Et donc, il y a peut-être un équilibre à trouver entre ce qu'on nous force dessus et qu'on peut accepter volontairement en disant bah, « j'ai pas le choix, ok, mais c'est bien en fait parce que ça va m'aider à me comporter mieux » et des choses qu'on met en place en termes de citoyens, de groupes pour essayer, voilà, des choses que vous avez témoignées là en termes de solutions qui pourraient être possibles, quoi. Voilà. J'ai pas de réponse, bien sûr.
Eh ben Marie, merci infiniment. On peut vous applaudir bien fort.
Merci beaucoup.
Donc, je le rappelle, hein, vous êtes la fondatrice de la Fabrique à Neurones, qui est pas très loin, hein, qui est du côté de voilà, il y a l'adresse, il y a les contacts, c'est à Chambéry. En tout cas, merci. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Le prochain rendez-vous, c'est le 11 avril. On parlera d'énergie solaire. La solution, pas l'interrogation. Donc voilà, on vous donnera quelques éléments. Et peut-être à ce soir, pour ceux qui ont réservé leur place pour la finale de ma thèse en 180 secondes, qui a lieu à Malraux. Merci et à très bientôt.